Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Sylvie Biette, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conservateur en chef de la bibliothèque de l'Institut et conservateur de la bibliothèque Thiers. Merci d'avoir répondu à notre invitation à Canal Académie pour présenter Clarisse Bader, un personnage peu connu, mais dont la bibliothèque Thiers possède de nombreuses lettres. Et vous allez organiser une exposition à la bibliothèque Thiers à partir du 15 février. Elle va courir jusqu'au 30 juin.
Oui, tout à fait. C'est une exposition sur la condition féminine au 19e siècle, mais où on se basera effectivement sur la vision du féminisme qu'avait Clarisse Bader au 19e siècle, à la fin du 19e siècle.
Je répète que la bibliothèque Thiers est située dans l'hôtel particulier d'Onthière, place Saint-Georges, dans le 9e arrondissement à Paris. Clarisse Bader, je donne tout de suite ses dates, 1840-1902. Effectivement, c'est le sujet de votre exposition parce qu'elle apporte un éclairage sur la condition féminine au 19e, mais avec une idée catholique.
Voilà, c'est exact. C'est une femme journaliste qui a vécu à la fin du 19e siècle et qui était catholique dans la tradition de Monseigneur Dupanloup. Elle était une disciple de Monseigneur Dupanloup, du catholicisme social, de Monsieur de Chambrun par exemple.
Oui, parce que c'était aussi les reliefs encore du catholicisme à idée monarchique.
Oui, alors oui, elle était certainement monarchiste, puisque la plupart des lettres que nous avons, enfin, elle a écrit beaucoup, beaucoup de choses. Elle présentait son travail, en fait. Hein. C'est un écrivain, elle a écrit plusieurs livres sur la condition féminine. La femme dans l'Inde antique, la femme à Rome, la femme en Grèce, et puis son dernier, la femme française à son époque, à l'époque contemporaine. Et donc, pour faire une sorte de publicité à ses livres, elle les envoyait en service de presse, si je puis dire, à des personnalités de son temps. Beaucoup de têtes couronnées ou de familles royales, de membres de la famille royale, française notamment, et puis à des savants et surtout des académiciens. Donc, c'est très intéressant pour nous. On a beaucoup de lettres d'académiciens, puisqu'en fait, c'est les lettres qu'elle a reçues.
C'est ça, c'est ce que vous avez compilé dans votre bibliothèque.
Voilà, voilà.
Alors, on parle du 19e, et c'est une période un petit peu sombre pour la condition féminine, parce qu'en fait, c'est une période de stagnation, peut-être même un peu de régression, enfin, pendant la Restauration en tout cas, et par rapport au siècle précédent. Et j'aimerais qu'on parle un peu de la Révolution française, parce qu'elle n'était pas si loin du 19e, mais est-ce que le féminisme en a récolté les fruits de tous ces grands personnages, Olympe de Gouges, Charlotte Corday?
Oui, beaucoup de femmes ont participé à la Révolution avec enthousiasme, hein, que ce soit pour aller chercher le roi et sa famille à Versailles. Hein, c'était les femmes en tête des cortèges. Ensuite, effectivement, des personnages que vous avez cités, Olympe de Gouges et autres, se sont manifestés, ont pris leur part des événements. Mais ça s'est assez mal passé, puisque...
Oui, Olympe de Gouges a été guillotinée.
Elle a été guillotinée, voilà, tout à fait. Elle disait, les femmes ont le droit de monter... à l'échafaud, elles ont aussi le droit de monter à la tribune. En fait, elle n'est pas montée à la tribune, mais elle est bel et bien montée à l'échafaud. Hein. Donc, à quelques rares exceptions près, comme Condorcet, qui proclamait qu'une entière égalité des droits entre les individus des deux sexes est une conséquence nécessaire de leur nature, en fait, les révolutionnaires étaient tous d'accord sur un point. La révolution dans l'État, d'accord.
Mais pas dans la maison.
Mais pas à la maison, pas question. La place des femmes est à la maison, pas dans la cité, encore moins à la tribune d'une assemblée. Alors, les mêmes refrains seront serinés tout au long du 19e siècle. Et là, toutes opinions confondues, droite, gauche, que ce soit Proudhon ou que ce soit Joseph de Maistre, concernant la faiblesse congénitale de la femme, sa place tracée de toute éternité au foyer, que ce soit par Dieu, par la nature ou par le bon sens, son rôle domestique, exclusif, d'épouse, de mère, l'obéissance qu'elle doit à son mari, qui est censé assurer sa protection et sa subsistance.
Mais ce qu'il y a, c'est que remettre en question la place de la femme dans la société aurait ébranlé les fondements de notre civilisation.
Ah, carrément, carrément. Ah oui, oui, c'est catastrophique. Hein. C'est un épouvantail brandi de la perversion de l'ordre naturel, des conséquences épouvantables pour tout le genre humain si la femme veut prendre la place de l'homme.
Hein. Condorcet, pour ça, était incroyable,
parce que je reviens
un peu en arrière.
Ah, oui, oui.
Mais lui, il était... très sincèrement d'accord pour l'égalité.
Absolument, mais c'est vraiment le seul. Oui. Et effectivement, des mouvements féministes de la fin du 19e siècle se sont référés à Condorcet, effectivement. Oui. Sont allés fleurir sa tombe.
Qu'en pensent les femmes? Bien sûr qu'on sait qu'il y a eu un mouvement d'émancipation évident au XXe siècle. Mais au XIXe, c'est plus compliqué. Naissance du féminisme ou des féminismes,
oui,
devrais-je dire.
Oui, tout à fait. Voilà, parce qu'il y a deux courants. Hein. Le courant égalitaire, donc dans la veine de Condorcet, qui est un courant qui se base sur l'égalité des femmes et des hommes, une égalité naturelle, sur des idées de raison, de progrès, de liberté, d'égalité pour tous. Ce courant égalitaire est le plus connu. Hein. Il considère le législateur comme moteur de changement. Donc, c'est des lois qu'on attend, l'égalité entre l'homme et la femme.
Oui, c'est le plus connu, c'est celui que nous aurons.
Nous réclamons de lui, tout à fait.
Il a une postérité importante.
Absolument. Alors, on peut citer, bien sûr, des grandes dates qui sont liées à ce courant égalitaire. Sous la Révolution, on en a parlé. Hein, les premières tentatives d'organisation des femmes dans des clubs patriotiques. Après, dans les années 1830-1850, ce sont les socialistes utopistes, comme les Saint-Simoniens, qui, eux, promouvaient, s'engageaient sur l'égalité des sexes.
Oui, mais c'était aussi, et c'était très bien, bien sûr, plutôt des lois sociales, parce que, en fait, les femmes qui travaillaient à l'époque, les ouvrières, les pauvres, avaient beaucoup plus besoin qu'on adoucisse leurs conditions de travail de droits civiques.
C'était
ça qui les intéressait.
Absolument, absolument. Mais n'empêche que, vraiment, la révolution de 1848 a aussi amené des personnes qui réclamaient le suffrage universel pour tous. Puisque,
oui, pas que savez, masculin.
Voilà. Bon, on parle de suffrage universel, mais c'est un suffrage universel masculin à cette époque. Donc, Jeannine Boyer crée un journal qui s'appelle La Voix des Femmes, ou encore Jeanne de Reims qui, malgré tout, se présente aux élections, même si elle n'y a pas droit, et évidemment, elle ne risque pas d'être élue.
Alors, il y a un personnage important que nous avons tous en mémoire, c'est parmi les femmes de la Commune, Louise Michel. Et en fait, elle n'avait pas qu'un rôle symbolique à écrire un journal. Elle est partie les armes à la main,
bien sûr. Encore sous la Commune, les femmes vont s'illustrer avec les armes. On a ainsi des photos de femmes canonnières qui tenaient leur place, les armes à la main. Mais elles en seront récompensées au même titre que leurs compagnons masculins, c'est-à-dire fusillade, prison, exil, comme Louise Michel en Nouvelle-Calédonie. Et donc, l'instauration de la Troisième République en 1875 n'apporte pas de grands changements au point de vue des droits civiques.
C'est l'éducation là qui...
Voilà, alors comme ce sont majoritairement des libres penseurs, ils vont essayer d'ôter la femme des griffes de l'Église.
Oui, parce qu'il y a concurrence.
Absolument. Et effectivement, c'est à partir de 1880 que là, on va avoir des lois qui permettent aux femmes de s'instruire de façon laïque.
C'est-à-dire
école primaire, lycée et université. Voilà, c'est vraiment à partir de 1880, les lois C, Jules Ferry, bien sûr. Ensuite, une loi importante aussi pour les femmes, c'est la loi Naquet en 1884, puisque le divorce est à nouveau permis. Pour faute seulement. Il avait été permis très peu de temps, en fait, pendant une ou deux décennies au moment de la Révolution. Et à la Restauration, il a été aboli. Et donc, en 1884, la loi Naquet rétablit le divorce. Et il faut savoir que majoritairement, ce sont les femmes qui réclament le divorce. Donc, on peut dire que c'est une loi féministe. Parlons quand même de Marguerite Durand, qui est une grande figure du féminisme, qui a fondé le journal La Fronde en 1897.
C'est tout dire.
Et ce journal-là est uniquement tenu par des femmes. Ça, c'est une énorme nouveauté. Il a fallu vraiment qu'elles se battent pour imposer des typographes femmes, des journalistes femmes, qui puissent se rendre à toutes les réunions, qui puissent boucler un journal la nuit, puisque le travail aux femmes est interdit la nuit, etc. etc.
Mais ça, c'était à titre protection.
C'était une protection, mais c'était aussi...
Oui. Et ce courant égalitaire au 19e est évidemment de gauche,
mais ce n'est pas toute la gauche française qui la soutient, parce
qu'il y a toujours les mentalités qui ont du mal à avancer.
Bien sûr. Ben, il faut savoir que, par exemple, les syndicats masculins ont essayé d'exclure les femmes. Pour eux, c'était une concurrence. Donc, le plus possible, ils luttaient pour avoir un meilleur salaire de façon à ce que leurs femmes puissent rester à la maison. Alors, est-ce que c'était bien, pas bien?
C'est toujours à double tranchant.
Voilà.
Alors, le courant dualiste, c'est la droite catholique. On connaît moins celui-là.
Voilà, tout à fait. Alors que, c'est plus discret, mais c'est certainement plus représentatif de la majorité silencieuse de l'époque. Alors, effectivement, il est clairement situé à droite et catholique, et c'est ce courant-là que soutient quelqu'un comme Clarisse Bader. Cet auteur... Alors, j'ai trouvé peu d'éléments biographiques sur elle.
Elle est née à Strasbourg,
en 1840. C'est une personne discrète, comme il convenait à une dame bien élevée de son époque. Alors, elle a fait l'objet de quelques courts articles, dans le Dictionnaire universel illustré, par exemple, des notices nécrologiques dans Polybiblion. On souligne à la fois son érudition, son mérite, pour avoir fait tant de livres sur la condition féminine, et le fait qu'elle ait heureusement remis les femmes à leur vraie place, c'est-à-dire...
À la maison.
Voilà. Bon, cette mauvaise langue de Barbet d'Aurevilly l'éreinte, comme beaucoup d'autres femmes écrivains, dans Les Bas Bleus, par exemple. Il y a tout un chapitre sur elle. Et Maurice Bloch lui consacre un chapitre, mais là, respectueux, dans son livre intitulé « Les femmes d'Alsace ».
Et comment sait-on son éducation? Parce que si elle est devenue journaliste, professeur, écrivain, c'est qu'elle a eu une éducation solide.
Alors oui.
Où l'a-t-elle reçue?
Eh bien voilà, je n'en sais rien. Franchement, là, je ne sais pas. De toute façon, au XIXe siècle, il n'y avait que deux façons d'être éduquée. Dans la haute bourgeoisie ou dans la bourgeoisie moyenne, c'était chez soi, par sa mère, ou bien dans un couvent. Alors, je ne sais pas où Clarisse Bader a été élevée. En tout cas, c'est une disciple de Monseigneur Dupanloup.
Oui, alors lui, c'est un académicien qui était évêque d'Orléans.
Voilà, c'est ça. C'est
et qui a théorisé et mis en place une éducation pour les jeunes filles.
Tout à fait, voilà. Alors, tout le long du XIXe siècle, l'enseignement des filles est laissé à l'initiative privée. L'État ne s'en occupe absolument pas. Et donc, deux solutions, comme je disais, soit être élevé chez soi avec éventuellement un précepteur ou une institutrice à domicile pour les personnes qui en avaient les moyens, les familles qui en avaient les moyens.
Oui, mais pour la petite bourgeoisie.
Et pour la petite bourgeoisie, on se contente d'une éducation primaire et puis c'est fini. Ou alors on met dans des couvents quand on a quand même un peu de moyens. Monseigneur Dupanloup est quand même un des premiers à dire qu'il fallait une solide éducation pour la femme. Et ça, il s'élevait même contre certains membres de son camp. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que la femme est la personne qui doit enseigner à ses enfants, qui doit être la première institutrice de sa famille, de ses fils même.
Tout à fait. Tout à l'heure, vous disiez, il y a deux solutions. Soit la mère, mais
il faut
que la mère soit
qu'elle soit
instruite.
Absolument, absolument. Et donc, cela, c'est vraiment très important. Et puis, au XIXe siècle, l'Église se féminise énormément. Les hommes ont été gagnés à la libre pensée par les lycées. Enfin, en tout cas, c'est l'opinion des catholiques.
Que la Révolution est passée par là.
Est passée par là, bien entendu. Et puis, elle s'est occupée, effectivement, de l'enseignement des garçons. Ça, il n'y avait pas de problème. Il y avait des lycées laïcs, etc. Et donc, qu'est-ce qui reste? Il reste les femmes. Et c'est vrai qu'au XIXe siècle, les églises, les assemblées à la messe, c'est de plus en plus les femmes. Et elles jouent un rôle de plus en plus grand.
Charitable.
Charitable, notamment.
Mais ça, elles l'ont toujours joué.
Oui, mais là, encore plus, peut-être, parce qu'il y a des problèmes sociaux assez récurrents. Urbains, des problèmes endémiques comme le chômage, les maladies, les épidémies, la pauvreté. Et donc, les femmes ont été appelées par l'Église à jouer un rôle effectivement de plus en plus grand, charitable. Si vous voulez, normalement, l'Église voulait que la femme reste à la maison. Et puis, la seule solution pour sortir de la maison, c'est justement faire la charité. Aller visiter les malades,
Oui, donc elles se sont émancipées un peu comme ça, parce qu'il a fallu organiser des associations,
se réunir, et puis y compris, enfin, c'était pas des petits clubs locaux, on a fait carrément des sociétés. Par exemple, Clarisse Bader a adhéré à la société anti-esclavagiste, qui est une société qui a été fondée par Isabelle du Brésil, qui est comtesse d'eux aussi en France, et qui a un rôle international, qui va s'occuper de la condition féminine ou des enfants en Afrique.
Oui, ce ne sont pas que des dames patronesses.
Tout à fait, voilà.
Ce n'est pas du tout négatif, mais ce n'est pas que à l'échelle de la municipalité, de la paroisse.
Voilà, absolument pas. Et alors, au début, c'est surtout les classes aisées, bien entendu. On fait appel à la générosité et au loisir aussi des dames de qualité, la noblesse. Et puis, de plus en plus, ces sociétés vont recruter des personnes qui ont le temps, mais qui ont aussi des moyens intellectuels, c'est-à-dire des bourgeoises, qui ne sont pas forcément mariées, qui sont célibataires ou qui sont veuves, et qui s'impliquent de plus en plus, qui ont un réel esprit missionnaire dans ces choses-là.
Oui, alors, en parlant des femmes seules, parfois mères de famille, et qui n'ont pas de fortune, quel travail font-elles?
Ah oui, alors Clarisse Bader est très restrictive, comme évidemment la mentalité de son temps, c'est-à-dire que les femmes doivent rester à la maison. Alors il ne s'agit pas qu'elles sortent pour travailler, parce qu'il risque d'y avoir une promiscuité avec
les
messieurs. C'est pas moral du tout. Alors bien sûr, elle reconnaît que certaines femmes doivent travailler, notamment celles qui sont chargées d'enfants sans avoir de mari, les veuves, parce que sinon c'est pas du tout moral, et puis les jeunes filles qui ne sont pas encore mariées. Alors qu'est-ce qu'elle préconise? Eh bien, on ne parle pas tellement des ouvrières. Pour elles, les ouvrières, c'est affreux de devoir aller travailler à l'extérieur dans une usine. Pas moral. Tout comme ce catholicisme social de l'époque. Elle s'intéresse au sort des ouvriers. Mais elle pense qu'en fait, la femme devrait travailler pour l'entreprise, mais chez elle. C'est-à-dire faire de la couture, faire des petits objets manufacturés, mais chez elle. Elle ne doit pas aller dans un atelier. Parce que là, elle risque d'être soumise à la promiscuité d'autres compagnes immorales, comme elle dit, etc. Voilà.
Mais il y a quand même des métiers qui sont plus féminins que d'autres. Par exemple, s'occuper des malades, ou bien être vendeuse dans les grands magasins, puisque c'est le moment des grands magasins.
Voilà.
Il faut faire des essayages féminins,
c'est
bien intime.
Là, c'est tout à fait.
Et puis, que dire de la femme médecin, puis de la femme artiste? Qu'est-ce qu'elle en pensait de tout ça?
Alors, pour revenir à la première chose, c'est vrai, c'est le développement des grands magasins. Donc là, il est indispensable qu'il y ait des femmes qui s'occupent de femmes. Ça, c'est pas possible qu'un homme fasse essayer des vêtements à des dames. Ça ne se fait pas. Alors, elle veut bien, mais à condition que ce soit des femmes qui n'aient pas charge de famille, des jeunes filles. Et effectivement, il y a un grand roulement, c'est-à-dire que la plupart des femmes qui travaillent à cette époque-là sont des jeunes filles qui ne sont pas encore mariées, ou des veuves, évidemment, hein. Et puis, il y a d'autres métiers qui se mettent en place à cette époque-là, vendeuse de timbres, la télécommunication, tout ça, c'est des métiers qui commencent à apparaître et qui sont exécutés féminin. Par des femmes, voilà, qui sont nettement féminins. Alors, vous me parliez d'infirmières, garde-malades, etc. Il faut savoir que jusque dans les années 80, c'était des religieuses qui s'occupaient de ça.
Après, il y a eu les lois qui ont changé.
Voilà, c'est-à-dire que pendant une grande partie du 19e siècle, que ce soit les garde-malades, enfin tout ce qui concernait l'hôpital, que ce soit aussi l'enseignement, une grande partie de l'enseignement était assurée par des religieuses. Donc une main-d'œuvre évidemment bon marché, puisque c'était des personnes qui avaient fait vœu de pauvreté, donc qui se vouaient à cela et qui consacraient leur vie, qui n'avaient pas charge de famille par définition. À partir des lois de 1880, donc des gouvernements qui sont très contre les congrégations et qui vont donc éventuellement les mettre à la porte,
bien sûr,
eh bien, il faut effectivement remplacer cette main-d'œuvre-là par des personnes qui forcément vont demander à être salariées. Alors c'est aussi à partir de ces années-là que les institutrices, eh bien, de plus en plus, sont laïques. Et les lois Ferry imposent à ce qu'il y ait des écoles laïques, gratuites et obligatoires partout. Mais évidemment, pour que ces écoles-là soient faites, parce qu'on séparait toujours, bien sûr, les garçons et les filles, il fallait des institutrices. Donc, on a créé dans chaque département les écoles normales. Et donc, voilà, des institutrices salariées. Et c'est elles qui vont être les plus, à la fois revendicatrices et les plus en pointe des mouvements pour l'égalité de salaire, notamment, pour obtenir aussi des congés maternité, etc. Voilà,
les institutrices. Il y a eu des congés maternité, mais pas payés.
Alors, au début, non. Ça, c'est vrai que dans les premières années, je crois que c'était en 1906, si je ne m'abuse, eh bien, les premiers congés maternité n'étaient pas payés. Hein. C'était, voilà, il fallait
mais
prendre
c'était déjà une avancée.
Mais c'était déjà une avancée.
Il faut le considérer comme ça.
Parce que sinon, on pouvait se faire envoyer quand on était en
mal d'enfant. Alors, les pionnières des grandes vocations du genre médecin, artiste, car il y a eu des pionnières.
Bien sûr.
Comment Clarisse Bader les considère-t-elle?
Alors, c'est un peu ambivalent, parce que Clarisse Bader est quand même écrivain. Elle ne peut donc pas
critiquer les femmes
écrivains. Voilà. Et puis, parce que toute son œuvre, c'est aussi pour exalter les femmes qui ont écrit à leur époque pour promouvoir leurs conditions, enfin, raconter leurs conditions de vie. Mais elle aime les femmes qui parlent de la condition féminine comme elle l'entend, c'est-à-dire les femmes qui vantent leur foyer, qui vantent leur famille, et pas les révolutionnaires. Par exemple, elle est très critique sur George Sand, qu'elle ne cite pas, parce qu'elle avait décidé de ne citer personne dans
de
son
contemporain.
Livre de contemporain, dans son livre sur la condition féminine. N'empêche que, évidemment, on reconnaît très très bien.
Oui, quand si elle fume le cigare et qu'elle s'habille en homme, on se doute bien.
On reconnaît tout à fait, mais elle n'aime absolument pas George Sand parce que c'est une femme
libérée.
qui démolit sa vision de la famille, de la condition féminine telle que Clarisse Bader l'entend. Quant aux femmes peintres, femmes sculpteurs, etc., d'accord, la femme peut tout à fait être artiste, mais il faut qu'elle le soit chez elle. Il faut qu'elle reste discrète et qu'elle s'efface derrière son œuvre. Ça, c'est vraiment son idéal.
Il faut s'effacer soit derrière son mari, soit derrière son œuvre.
Voilà, tout à fait.
Parce qu'elle n'a jamais été mariée.
Non, alors ça aussi, c'est assez amusant, finalement. C'est que cette femme qui promeut la place de la femme au foyer, la mère, l'épouse, etc., ne s'est jamais mariée. Alors, on peut évidemment se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'elle a voulu se consacrer à sa famille, à ses parents? Effectivement, il y a beaucoup de femmes qui sont restées célibataires pour s'occuper de leurs vieux parents.
Oui, surtout que je crois que les parents avaient eu des revers de fortune.
Absolument, oui. J'ai vu dans ses lettres, mais très rapidement, qu'il avait perdu son emploi. Et donc, je suppose que Clarisse Bader a dû assurer la vie de sa famille en étant journaliste, en écrivant, etc. Alors, ça peut être un autre problème aussi, c'est manque de dot. Parce qu'à l'époque, il fallait avoir une dot pour se marier. Oui. Il fallait avoir des moyens financiers. D'ailleurs, elle-même est très critique contre la dot. Elle dit, mais finalement, c'est la femme qui achète l'homme, mais non pas pour le diriger, mais pour lui obéir. Voilà. Et à plusieurs endroits de son œuvre, elle dit, mais c'est absurde, l'homme prend femme non pour ses qualités, mais pour l'argent qu'elle représente. Hein. Donc, elle est très critique là-dessus. Alors, est-ce que derrière, il y a eu un problème à propos d'une dot? Je ne sais pas. Et puis finalement, peut-être tout simplement par volonté de rester libre. Parce que, comme elle l'explique très bien aussi dans son livre, elle dit « la femme n'est pas obligée par la loi de se marier ». Si elle veut rester libre, elle reste célibataire, elle a à peu près, et ça c'est dans le code civil, à peu près autant de droits que l'homme. C'est ça qui est assez étonnant. C'est-à-dire qu'une femme célibataire administre sa propre fortune, hérite, et ça c'est un héritage de la Révolution, hérite à égalité avec ses frères, hein, puisque dans l'Ancien Régime, ce n'était pas le cas. Elle peut tester, peut rester en justice, tenir banque, tenir un commerce, etc., etc. Mais par contre, dès qu'elle se marie, elle passe sous la coupe de son mari et c'est fini. Elle devient mineure à vie. Alors, Elle n'a plus non plus d'ascendant sur ses enfants. Enfin, elle n'est pas décisionnaire ni sur sa fortune, ni sur ses enfants.
Oui, il a fallu attendre 1907 pour que les femmes mariées puissent enfin disposer librement de leur propre salaire.
Absolument, oui, enfin, oui.
Pour
absolument.
Conclure, peut-on opposer le courant égalitaire au courant dualiste dans le féminisme du 19e? Parce que, en fait, la plupart des femmes voulaient davantage une évolution qu'une révolution de leurs conditions.
Oui, bien sûr. Surtout qu'au 19e siècle, la plupart des femmes étaient élevées dans cette idée de la différence entre les sexes. Elles ne la remettaient pas en question. Alors, c'est vrai qu'elles admettaient au fond d'elles-mêmes le bien fondé de certaines exigences des féministes. Mais ça les effrayait aussi. Les suffragettes anglaises, par exemple, n'étaient pas très bien perçues en France par les femmes elles-mêmes. Il faut bien admettre que la suggestion féminine et la rengaine de la faiblesse constitutive de la femme ne présentent pas que des désavantages. Moins de responsabilités, le travail ménager est sans doute moins abrutissant que l'atelier, par exemple. Et puis les lois sur le travail dont vous avez parlé, qui protègent la femme, interdiction de travail de nuit, travail dans les mines, réduction du temps de travail. C'est sexiste et contraignant peut-être ce
oui,
genre de loi.
Mais c'est positif.
C'est positif. Et puis du coup, ça n'a pas moins amené des améliorations sociales dont les hommes eux-mêmes ont bénéficié.
Et alors maintenant ?
Mon Dieu, alors, est-ce que les mentalités d'aujourd'hui ont évolué jusqu'à l'égalité complète entre les deux sexes ? J'en suis pas sûre du tout. De toute façon, aucune loi égalitaire n'empêchera que les femmes se sentent tenues de faire la cuisine ou le ménage à la place de leur conjoint, ou que des mères demandent plus souvent que des pères un travail à temps partiel pour s'occuper de leurs enfants. Et quant à l'idée de salaire seulement complémentaire des femmes, ça reste quand même tenace dans bien des foyers.
Bien sûr. Merci beaucoup, Sylvie Biet.
Merci bien.